l'a évoqué un petit peu dans les deux jours, on va l'approfondir un petit peu plus autour du handisport. Donc, je vais faire une petite présentation très rapide du handisport en compétition. Après, je vous mettrai un petit peu dans les jeux, un petit peu dans le bain des Jeux paralympiques 2024 avec une présentation parce que je suis pas sûr que tout le monde connaisse toutes les disciplines qui seront présentes aux Jeux paralympiques de 2024. Et après, on abordera. Alors, j'ai fait un petit lapsus dans mon titre, dans le programme où j'ai mis le mouvement paralympique et la place du sport. Je pense que vous avez bien imaginé que c'était la place de l'Église, mais la place du sport aussi. Et voilà. Donc, j'ai illustré un petit peu avec les fringes qui ont été faites pour Paris 2024. Donc, tout d'abord, au niveau de l'international, donc c'est le médecin neurologue de l'hôpital de Stockmann-Ville, monsieur Ludwig Gutmann, qui, dans le comté de Buckinghamshire, près de Londres, a eu l'idée d'organiser dès 1944, sur le terrain de l'hôpital, les premiers Jeux mondiaux des chaises roulantes et des amputés. Ils étaient destinés à réhabiliter par la pratique physique les victimes et anciens combattants de la Seconde Guerre mondiale devenus paraplégiques. Deux équipes d'anciens combattants ont alors participé à une unique épreuve, le tir à l'arc. Et donc, ces jeux vont se développer et les 9e Jeux de Stockmann-Ville vont avoir lieu à Rome en 1960, une semaine après les Jeux olympiques d'été de 1960. Et c'est pour ça qu'ils sont considérés comme les premiers Jeux paralympiques. Les premiers Jeux paralympiques d'hiver auront lieu à Örnsköldsvik,
Bah oui.
un truc comme ça,
Mmh.
enfin ça c'est ternu, mais en Suède en 1976. Je ne parle pas trop le suédois. Depuis les Jeux paralympiques d'été de Séoul en 1988, les Jeux olympiques et les Jeux paralympiques sont organisés dans la même ville et sont organisés après les Jeux olympiques. Alors, on l'a évoqué hier, il y a un aspect, ce qui est dommage, c'est que notamment la flamme soit éteinte après les Jeux olympiques. Enfin, voilà, il y a des choses, et puis que la Fédération internationale, le Comité international paralympique, qui est créé en 1989 et qui va regrouper toutes les structures de sport pour sport handicapé, ne puisse pas utiliser les anneaux olympiques. Donc, ils ont leurs trois petites couleurs associées à leur logo. Alors, en France, le handisport commence vraiment en 1954 avec la création de l'Association des mutilés de France, qui deviendra ensuite Fédération sportive des handicapés physiques de France. Puis en 1977 va prendre l'appellation qu'on a actuellement, la Fédération française handisport. En 1983, elle est reconnue d'utilité publique. Donc actuellement, au niveau de la Fédération française handisport, il y a à peu près 35 000 pratiquants dans 700 clubs et dans 45 sports, tous les sports n'étant pas paralympiques, comme au niveau des sports valides, tous les sports ne sont pas olympiques. Alors, il y a aussi notre fédération en France qui est la Fédération française du sport adapté, la FFSA, qui régit la pratique d'activités physiques et sportives pour les personnes ayant un handicap mental, et cela dans diverses divisions, permettant ainsi à chacun de s'exprimer selon ses capacités. Il y a notamment aux Jeux paralympiques certaines épreuves qui sont réservées à ceux qui ont un handicap mental. Donc, les sports paralympiques sont les sports présents aux Jeux paralympiques d'été et d'hiver. Certaines sont des disciplines courantes comme le cyclisme, l'équitation et le judo, dont les règles sont adaptées pour le handisport. Ces adaptations peuvent être importantes. Ainsi, le rugby fauteuil ressemble assez peu au rugby des athlètes valides. C'est aussi physique, mais ce n'est pas tout à fait la même chose. D'autres sont des disciplines purement paralympiques, le boccia et le goalball. La nature et la gravité du handicap varient selon les athlètes, ainsi les épreuves des athlètes handicapés moteurs sont distinctes de celles des athlètes aveugles ou malvoyants, par exemple. Et au sein de ces ensembles, les athlètes sont catégorisés selon le degré de leur handicap afin de concourir contre les adversaires ayant un handicap le plus similaire possible. Et la classification évolue régulièrement, ce qui fait que certains athlètes peuvent se retrouver d'une compétition à l'autre dans une catégorie différente. Mais là aussi, il y a aussi des athlètes qui, avec leur handicap, peuvent avoir un handicap qui se développe et aussi changer de catégorie. Donc, on a généralement six grandes catégories. Les catégories pour ceux qui sont amputés, donc on dit notamment les athlètes dénués d'au moins un joint majeur dans un membre, ceux qui ont une infirmité motrice cérébrale, ceux qui ont un handicap mental, ceux qui ont un handicap visuel. Il y a aussi la terminologie française qu'on évoque les autres. C'est tout handicap moteur n'étant pas intégré dans les autres catégories. Donc on cite notamment le nanisme et puis les athlètes en fauteuil roulant. Donc voilà un petit peu pour une présentation très succincte. Maintenant, on va passer au concret avec les sports paralympiques pour 2024. Donc les épreuves vont se dérouler du 28 août au 8 septembre. Donc il y aura le 28, ce sera la cérémonie d'ouverture. Et bien sûr, le 8, il y aura la cérémonie de clôture. Et entre le 29 et le 8, il y aura donc 11 jours de compétition de 22 sports, entre guillemets 23 disciplines, puisqu'on considère qu'il y a un sport, le cyclisme, mais qu'il est développé sur le cyclisme sur route et le cyclisme sur piste. Donc cela correspond à 549 épreuves qui seront réparties sur 269 sessions. Là aussi, ça peut varier selon les éditions des Jeux paralympiques, mais là, ça sera pour. Donc, je vous ai mis un petit peu, voilà, les jours selon les sports, et puis on va décliner pour chaque sport. Voilà, ça fera peut-être un petit rappel ou une découverte selon les sports. Donc, je les ai pris dans l'ordre de la liste. Donc, il y a le basket fauteuil, puisqu'en fait, le basket est l'une des premières disciplines, puisqu'elle était présente dès l'édition 1960 à Rome. Par contre, la compétition féminine de basket en fauteuil roulant a rejoint le programme paralympique lors des Jeux de 1968 qui sont déroulés à Tel Aviv en Israël. Donc, comme pour les athlètes valides, les athlètes masculins et féminins jouent dans des équipes de 5 joueurs chacune. Chaque match est disputé en 4 périodes de 10 minutes avec des périodes supplémentaires de 5 minutes chacune pour résoudre un match nul. Donc, des fois, il y a des matchs qui peuvent être très longs. Voilà, donc il y a habituellement 12 équipes nationales masculines et 10 équipes nationales féminines qui participent à cette compétition paralympique. Donc il y a d'abord une phase de groupe, il y a deux groupes, donc soit 2 fois 6, 2 fois 5, et ensuite les 4 premiers vont participer aux quarts de finale, demi-finale, finale. Ensuite, la boccia, donc qui est vraiment une épreuve purement paralympique et qui est présente aux Jeux d'été depuis 1984. Donc à cette époque-là, il y avait 5 épreuves, 2 masculines, 2 féminines et une épreuve mixte, toutes catégories. Et c'est à l'occasion des Jeux d'été de 88 que toutes les épreuves deviennent mixtes. À savoir que chaque catégorie, il y a hommes et femmes selon les degrés de handicap. Donc c'est un sport qui est apparenté à la pétanque. Donc l'image qu'on a, c'est vraiment pour ceux qui ont le handicap le plus lourd, qui utilisent une rampe. Et voilà, donc ce qui permet aux athlètes atteints de handicap moteur grave de pouvoir participer. Donc il y a 4 catégories. Donc en fait, au niveau du règlement, il y a un tirage au sort qui désigne l'équipe qui aura les boules rouges, celle qui aura les boules bleues. L'équipe rouge commence la partie en lançant une boule blanche appelée Jacques. C'est pas le cochonnet. L'objectif de chaque équipe est d'envoyer ses boules le plus proche de la boule blanche, comme en pétanque. Et le sportif en fauteuil roulant peut lancer ces 6 boules à la main, avec le pied ou à l'aide d'un appareil. Et donc, cette partie se déroule sur entre 30 et 60 minutes, selon le handicap, sur des terrains de 12 mètres 50 par 6 mètres. Ensuite, le sessifoot. Donc, c'est un football qui se joue à 5 pour les aveugles et malvoyants, qui est présent aux Jeux paralympiques depuis 2004, et en foot à 7 pour athlètes atteints d'infirmité motrice cérébrale depuis 1984. Donc, le football à 5, comme son nom l'indique, oppose deux équipes de 5 joueurs, 4 joueurs de terrain aveugles ou malvoyants qui sont bandés pour avoir un souci d'équité et un gardien de but voyant ou modérément malvoyant. Donc, le terrain est de 42 mètres par 22 et chaque mi-temps dure 25 minutes et le ballon émet un son pour guider les joueurs. Alors à ce jour, il n'existe pas de compétition féminine du sessifoot. Voilà, et donc la compétition football à 7 se déroule sur un terrain de 70 mètres sur 50 plus grand. Donc la mi-temps dure 30 minutes, voilà. Et les degrés de handicap peuvent varier. Et pour équilibrer, chaque équipe doit contenir au moins un joueur classé 5 ou 6. Et donc en fait, les niveaux de handicap les plus lourds. Et donc il peut y avoir aussi des athlètes dans les catégories 7 et 8. Alors c'est vrai que les catégories sont souvent d'un sport à l'autre, c'est un peu compliqué. Voilà. Je ne vous ai pas fait le détail parce qu'on aurait pu y passer des heures. L'escrime fauteuil, elle est présente depuis la première édition en 1960. L'escrime se pratique sur un fauteuil roulant immobilisé à une distance suffisamment courte pour que chaque athlète puisse atteindre son adversaire. L'escrime fauteuil, comme l'escrime valide, se pratique au fleuret, à l'épée et au sabre. Et donc les athlètes sont simplement classés A ou B, la catégorie B désignant ceux qui ont besoin d'un support outre leur fauteuil pour garder l'équilibre. Les athlètes affrontent des concurrents de leur propre catégorie. Voilà, donc c'est notamment la question des amputations voilà, qui joue un rôle. Puis voilà, la compétition fonctionne de la même façon qu'en escrime. Le goalball est donc une épreuve paralympique depuis 1976 chez les hommes et depuis 1984 pour les femmes. Et elle avait été inscrite comme sport de démonstration en 1972. Donc, le goalball est un sport destiné spécifiquement aux aveugles et aux malvoyants. Chaque équipe comprend trois joueurs sur un terrain intérieur en salle de 18 mètres sur 9. Donc, tous les joueurs ont les yeux bandés, là aussi pour l'équité. Et chaque équipe lance tour à tour le ballon à ras du sol dans les cages adverses qui font 9 mètres de large. Et donc, les joueurs adverses repèrent le ballon au son des clochettes qu'il contient et doivent le bloquer avec leur corps. Chaque mi-temps dure 12 minutes et donc il y a une compétition masculine et une compétition féminine. Alors souvent on voit quand même des images de cette discipline. Ensuite, l'athlétisme, donc qui est aussi le sport paralympique le plus populaire et il fait partie aussi des premiers jeux présents à Rome en 1960. Donc c'est la discipline qui regroupe le plus grand nombre d'athlètes et d'épreuves. Donc on a les courses sur piste à l'exception des courses de haies, les sauts à l'exception de la perche, les lancers à l'exception du marteau, et enfin toutes les courses sur route du 10 km au marathon. Donc il y a 170 épreuves en athlétisme, et donc cette discipline est ouverte aux athlètes de tout handicap. Donc on a différentes voilà, catégories, donc avec la lettre T pour la course, avec le degré du handicap, le F pour les lancers ou pour les sauts. Ensuite, il y a l'aviron. Donc, c'est une discipline qui a été présente aux Jeux paralympiques à partir de 2008. Et cette discipline est sous la juridiction de la Fédération internationale des sociétés d'aviron, FISA, la même fédération que pour les Jeux olympiques. Donc, il y a quatre épreuves, le simple homme, le simple dame, le double mixte et le mixte 4 avec barreur. Donc, toutes les courses ont lieu sur 1000 mètres en ligne droite. Et donc le nombre d'équipes autorisées à courir est limité, et c'est en fait la FISA qui organise des qualifications afin de déterminer ceux qui participent aux Jeux paralympiques. Et donc là aussi, dans cette discipline, chaque comité national ne peut avoir qu'un seul bateau par épreuve. Alors généralement, bah, comme on le voit, c'est au niveau des jambes. Parce que oui, il faut quand même, voilà, avec les bras, il y a besoin des bras. Ensuite, le badminton, donc, est une épreuve qui est très récente puisqu'elle a été présente aux Jeux paralympiques précédents. Donc, on a des sportifs présentant tout type de handicap physique et moteur qui participent à cette compétition. Donc, la Fédération mondiale de badminton a poussé depuis plus de 10 ans pour développer le para-badminton. Donc là aussi, les joueurs reçoivent une classification en fonction du type et de l'ampleur de leur handicap. Et donc le système de classification permet de rivaliser avec les autres joueurs avec le même niveau de handicap. Donc là, on a 16 épreuves. Donc on peut avoir des épreuves en simple, pour petite taille, pour ceux qui sont debout, voilà, sur leurs pieds, ceux qui sont en fauteuil. Donc il y a des épreuves hommes-femmes et il y a aussi double fauteuil et double debout, hommes-femmes et mixte. Donc ça, c'est une épreuve qui est toute nouvelle, donc on n'a pas forcément l'habitude. Au niveau du canoë, seul le canoë sprint est représenté aux épreuves de canoë-kayak au niveau des Jeux paralympiques. Donc c'est sur la distance de 200 mètres par une confrontation directe et en monoplace dans deux types d'embarcations, les kayaks et les Vaas. Donc les épreuves de kayak ont été introduites en 2016 et le Vaas a fait sa première apparition lors des Jeux de Tokyo. Moi, à chaque fois, je mets 2020, même si ça s'est passé en 2021.
Quoi le Vara?
Comment?
C'est quoi le Vara?
Le Vaas, c'est les, entre guillemets, je ne vais pas dire les pirogues polynésiennes, mais voilà, ce n'est pas tout à fait les mêmes embarcations. Donc, pour les Jeux paralympiques, le programme du paracanoë est constitué de 6 épreuves en kayak, donc KL1, KL2, KL3, femmes et hommes, et 3 épreuves en Vaas, VL2, femmes, VL2 et VL3, hommes. Donc, là aussi, c'est les classes de handicap. Donc c'est vrai que là aussi, comme ça va être la deuxième édition, c'est. Ensuite, donc le cyclisme sur route n'était pas dès le départ, puisqu'il n'est arrivé qu'en 1988, et le cyclisme sur piste en 1996 à Atlanta. Donc pour ces épreuves, le port du casque est obligatoire pour les cyclistes, et on repère la classe de handicap par la couleur du casque. Donc les déficients visuels roulent sur des tandems et les handicapés physiques sur des vélos. Peu modifiés. Donc, les vélos de handbike, comme on voit sur les dessins, sont destinés aux personnes en fauteuil roulant. Et donc, alors, ils possèdent 3 roues et sont tractés par la roue avant à l'aide d'un système utilisant l'énergie des bras. Donc, le cyclisme sur route comporte 3 types d'épreuves, la course en ligne, le contre-la-montre et le relais par équipe. Et sur piste, les épreuves de vitesse se disputent en individuel ou par équipe sur un vélodrome de 250 mètres. Avec des distances de 500 mètres à 1000 mètres, départ arrêté, et les épreuves de poursuite se tiennent sur des distances de 3 km à 4 km. Au niveau des sports équestres, seul le dressage figure aux Jeux paralympiques. Et donc, c'est depuis 1984 à New York que l'on a cette épreuve. Donc là aussi, les athlètes sont classés selon des critères de mobilité, de force et de coordination. Il y a 4 grandes catégories principales qu'on appelle les grades. Donc, selon les handicaps, les équipements peuvent être améliorés, notamment celles permettant un meilleur équilibre du cavalier, usage de rênes à pont qui permet d'utiliser une seule main ou des rênes à poignet pour une meilleure prise en main, enfin, des étriers de sécurité, etc. Et quand ce sont des cavaliers aveugles ou malvoyants, ils peuvent être guidés à la voie depuis le bord de la piste. Donc, la compétition se déroule en 3 reprises pour chaque couple cavalier-cheval. 2 reprises imposées et 1 reprise libre en musique. Et donc le titre par équipe est attribué à la meilleure équipe nationale de 4 cavaliers. C'est un petit peu comme ce qu'on a au niveau valide. Au niveau du judo, donc cette discipline a été introduite pour les Jeux paralympiques de 1988, mais seulement de 2004 pour les femmes. D'ailleurs, au niveau des valides, c'est aussi pareil. Le judo féminin a mis beaucoup de temps à être aux Jeux. Le judo aux Jeux paralympiques est identique aux Jeux olympiques et les athlètes sont aveugles ou malvoyants. Donc, il n'y a que cette catégorie. Donc, il n'y a pas de catégorie de handicap, mais c'est par le poids, comme pour les valides. Donc, il y a 4 catégories de poids chez les hommes et 4 catégories de poids chez les femmes. Donc, il y a, entre guillemets, la catégorie aveugle et la catégorie malvoyant.
Donc, il n'y a pas de handicap des jambes.
Non, mais c'est la mascotte, elle est faite comme ça, donc
D'accord.
voilà. Donc ouais, c'est pas forcément un révélateur. Puis la façon dont il se tient, ça fait plus penser à un karatéka qu'à un judoka. Ça, c'est autre chose. Ensuite, la natation, elle est présente depuis la première édition en 1960 à Rome, et c'est la deuxième discipline ayant le plus d'épreuves. Il y en a 146, hommes, femmes et mixtes. Donc, c'est à peu près les mêmes qu'aux Jeux Olympiques, mais donc c'est subdivisé en catégories de handicap. Donc, là aussi, les épreuves sont classées par lettres et par chiffres. Donc, la lettre désigne le type de nage et le chiffre des types de handicap. Donc, S pour la nage libre, le dos et le papillon, SB pour la brasse et SM pour le medley. Et donc, le chiffre considère la nature et la lourdeur du handicap. Plus le chiffre est petit, plus le handicap est gros. Donc on a de 1 à 10, c'est pour les handicaps physiques, de 11 à 13, c'est pour les handicaps visuels, et 14 pour le handicap mental. Et donc lorsque l'on fait les relais, les points sont calculés en additionnant les classifications numériques des nageurs. On le retrouve aussi dans certaines disciplines où, en fait, on peut panacher, mais en fonction du nombre, on ne doit pas dépasser un certain total. Ensuite, le développé couché, qui est ma discipline de prédilection, donc qu'on appelle le bench press en anglais, qui est un mouvement de la force athlétique, donc le powerlifting, est présent aux Jeux olympiques, Jeux paralympiques depuis 1964. Par contre, les femmes ont fait leur première apparition dans cette discipline aux Jeux paralympiques en 2020, en 2000 à Sydney. Alors c'est un petit peu bizarre au niveau de cette discipline parce que en fait souvent les disciplines paralympiques ont été mises parce qu'il y avait une discipline olympique. Alors vous comprenez bien que pour des personnes qui ont des handicaps au niveau des jambes, pour faire de l'haltérophilie, c'est plutôt compliqué. Donc on a pris le mouvement du développé couché. Mais à l'époque, en 1964, il n'y avait pas encore de fédération internationale de force athlétique. Donc on va appeler ça de l'haltérophilie. Mais après, la force va se développer et entre 1984 et 1992, on va avoir deux épreuves, l'haltérophilie et le développé couché, qui sont exactement le même mouvement, mais exécutés de façon différente et avec des catégories de poids différentes. Et donc, après 1992, la fédération, l'IBC va décider, comme il y aura une fédération officielle de force, va décider que ce sera le mouvement de la force. Mais on retrouve encore, et notamment en France, des fois, le terme haltérophilie, alors que ça n'a rien à voir. Donc là aussi, comme en valide, il y a 10 catégories de poids chez les hommes et chez les femmes. Donc les athlètes sont allongés sur un banc spécial et peuvent être sanglés selon leur handicap. Et donc, comme pour l'autre discipline, il y a 3 essais pour soulever la charge maximum. Donc on peut avoir des handicaps très variés parce qu'on peut avoir des athlètes qui sont amputés totalement des deux membres, seulement d'un membre, on peut avoir aussi des personnes de petite taille. Ensuite, le taekwondo est une des disciplines récentes qui a été ajoutée donc aux Jeux d'été précédents. Et donc, il y a 6 épreuves, 3 catégories de poids chez les hommes et 3 catégories de poids chez les femmes. Donc, les taekwondoistes, je ne sais pas comment on prononce, reçoivent une classification en fonction du type et de l'ampleur de handicap. Et donc, une seule épreuve par catégorie de poids a été retenue ouverte. Elle s'adresse aux athlètes K44 et c'est ouvert aussi aux athlètes K43. Donc, le K44, c'est minimum une paire de la main par le poignet ou bras raccourcis de manière équivalente. Donc, il peut y avoir aussi des athlètes qui ont un trouble de coordination dans un bras. Tout ça, je ne l'ai jamais vu, donc ça sera peut-être une petite découverte qu'on aura à faire aussi. Alors le tennis de table, ben, lui, c'est une discipline historique du paralympique, puisqu'il était présent depuis 1960 à Rome. Donc les athlètes évoluent dans 11 catégories, classes différentes selon leur handicap. Les athlètes de la catégorie 10 à la catégorie 6 jouent debout, et les athlètes de la catégorie 5 à 1 jouent en fauteuil roulant. La catégorie 11 est réservée aux déficients mentaux. Donc, il y a potentiellement jusqu'à 44 épreuves paralympiques, individuelles hommes, individuelles femmes, double homme, double femme, mais dans certaines éditions, il y a certaines catégories qui ont fusionné. Voilà, donc notamment en 2008 où catégorie 5 et 4 pour les hommes et 9 et 10 et chez les femmes 6 et 7. Après, des fois, c'est au niveau des règlements, ça évolue et je ne sais pas forcément toujours pourquoi ça évolue. Ensuite, le tir à l'arc, ben, comme je l'ai dit dans l'historique, était déjà présent depuis 1949. Donc, automatiquement, ils étaient présents sur les premiers Jeux paralympiques en 1960. Donc, c'est des épreuves qui sont pratiquées par des handicapés moteurs dans des catégories individuelles ou par équipe mixte. Les athlètes sont classés en fonction du degré de leur handicap et de leur art. Donc, à la différence du tir à l'arc aux Jeux olympiques, il y a l'épreuve du tir à l'arc classique et aussi l'épreuve du tir à l'arc à poulie. Et donc le tir à l'arc se pratique en fauteuil roulant ou debout, et les athlètes debout peuvent s'appuyer sur un haut tabouret si nécessaire, en fonction de leur problème d'équilibre ou de leur handicap. Et donc là, il y a 3 catégories. Athlète assis, handicapé des 4 membres, athlète en fauteuil roulant mais étant handicapé uniquement au niveau des jambes, et l'autre catégorie pour ceux qui sont atteints de bout atteinte de handicap aux jambes. Ensuite, le tir sportif donc, a été inclus au programme des Jeux paralympiques en 1976. Donc, on a des épreuves masculines, féminines et mixtes. Donc cela se pratique sur des épreuves de 10 mètres, 25 mètres et 50 mètres, soit la carabine, soit au pistolet. Donc là, la catégorisation est simple, soit athlète capable de porter le pistolet ou la carabine, soit des athlètes qui ont besoin d'un support pour tenir le pistolet ou la carabine. Voilà, donc les athlètes peuvent, selon leur handicap, tirer soit à genoux, soit debout, dans des fauteuils ou couchés. Le triathlon est aussi une des épreuves qui est très récente, puisqu'elle a été introduite aux Jeux paralympiques en 2016. Donc on a 700 mètres, 750 mètres de natation, 20 km de vélo et 5 km de course à pied, c'est ce qu'on appelle la distance sprint. Donc, en la dernière édition, on a augmenté le nombre de catégories. Donc, 5 catégories de handicap sur 6 sont présents aux Jeux paralympiques. Je ne vous cite pas les noms des différentes catégories, puisque ça n'a pas. Et donc, depuis les Jeux paralympiques de 2012, alors je ne sais pas pourquoi j'ai mis ça, puisqu'ils sont là. Alors, je suis pas sûr que ce soit pour le triathlon, mais dans certaines disciplines, le guide est considéré comme un athlète à part entière et reçoit la même médaille que son binôme. Alors, je pense que ça ne doit pas être pour le triathlon, puisqu'il est arrivé qu'en 2016.
C'est 2018 Londres,
Donc, c'était 2012. Ensuite, il y a le rugby fauteuil, qui est présent depuis l'édition de 96. Donc, les athlètes doivent être handicapés non seulement des membres inférieurs, mais aussi du tronc et au moins d'un bras. Et donc, les athlètes sont classés selon leur niveau de handicap entre 0,5 et 3,5. Et comme dans la plupart des sports, le plus petit chiffre correspond au handicap le plus lourd. Et donc, en fonction des points, ils ont des postes particuliers. Donc, en dessous du score de 2, les joueurs sont principalement des bloqueurs sur le terrain, parce qu'ils ont des difficultés à porter et à passer le ballon. Donc chaque équipe a 4 joueurs sur le terrain, et donc le total de leur handicap ne peut pas dépasser 8. Donc les équipes peuvent être mixtes. Il n'y a pas de règle quant à la mixité, mais souvent les équipes sont plutôt masculines. Mais chaque fois qu'il y a une joueuse féminine dans une équipe, l'équipe a droit à avoir un demi-point de handicap supplémentaire, c'est-à-dire d'avoir un handicap plus léger. Mais souvent, on a dans les équipes généralement soit 4 hommes, soit 3 hommes et une femme. Ensuite, le tennis fauteuil donc a été en démonstration en 1988 et en compétition officielle en 1992. Donc, il y avait d'abord 2 épreuves au départ, simple dames et simple messieurs. Puis, on a diversifié avec le double dames, le double messieurs. Et en 2004, on a ajouté le simple et le double tétraplégique en épreuve mixte. Donc toutes ces épreuves se déroulent en fauteuil roulant, et donc les épreuves CAD mixte regroupent les athlètes qui ont un handicap de la partie supérieure du corps aussi bien que de la partie inférieure. Et donc ces derniers peuvent utiliser un fauteuil roulant électrique et attacher leur raquette à leur main qui leur est difficile de la tenir. Ensuite, le volley-ball assis, c'est un sport qui est né en 1956 qui combinait le volley-ball et le sitzball. Alors, ne me demandez pas ce que c'est que le sitzball, je n'ai pas regardé. Donc, il était présent dès les Jeux paralympiques de 1980. Donc, cette discipline se pratique assise. Il n'y a pas de catégorie de classification. Tous les athlètes handicapés peuvent y prendre part à condition de demeurer assis, c'est-à-dire conserver au moins une fesse au sol à tout moment. Donc, le terrain est de 10 mètres sur 6 et le filet à hauteur de 1,15 m pour les hommes et 1,05 m pour les dames. Donc les hommes jouent à 5 par équipe et les dames à 4. Donc voilà un petit peu pour une présentation de tous les sports qui seront présents aux Jeux paralympiques de 2024. Donc maintenant que je vous ai fait soit redécouvrir, soit découvrir les disciplines, je vais vous faire découvrir des champions et notamment des champions chrétiens. Donc on va notamment commencer par la plus grande championne française de tous les temps, Béatrice Hess, qui a été 20 fois championne paralympique de natation, et qui a été aussi de nombreuses fois championne du monde et championne olympique. Voilà, donc il y en a certains que vous retrouvez sur les panneaux avec la phrase qu'il cite ou il témoigne. Béatrice Hess a participé au document épiscopal Église et Sport et sa longue interview que j'ai faite avec elle est aussi sur le site Église et Sport. Alors, dans les champions français, on a aussi toujours en natation Ludivine Loiseau, qui elle a été 3 fois championne paralympique et 3 fois championne du monde. Voilà, qui évoque notamment que sa foi l'a vraiment aidée à l'adolescence pour arriver à dépasser, à se dépasser et à assumer son handicap. On a généralement de très beaux témoignages sur tous ces athlètes, ces para-athlètes. On va passer un petit peu à l'international, notamment avec Bethany First, qui a été championne paralympique de nombreuses fois sur 3 Olympiades, notamment 100 mètres et 200 mètres en natation. Vous avez aussi Arun Beyers, qui est elle d'Afrique du Sud, Bethany était d'Irlande du Nord, qui a été aussi championne paralympique. Donc c'est voilà, ces 2 championnes sont des championnes actuelles. Donc qui a été championne du monde. Voilà. On a souvent des beaux témoignages sur des fois on se plaint de nos petits bobos, etc. Et de voir des athlètes qui remercient Dieu pour tous les dons qui leur a été donnés, de pouvoir les partager, c'est de très beaux témoignages. Fanny Van Der Merwe, qui est d'Afrique du Sud, donc lui qui est en athlétisme, donc sur les courses de 100 mètres et 200 mètres, donc qui a été 4 fois champion paralympique, mais qui n'a jamais été champion du monde. Je crois, oui, il est 8 fois vice-champion du monde. Enfin, souvent, le titre paralympique est plus important que le titre mondial. Donc, mais voilà, donc on a aussi voilà, ce témoignage qu'il partage volontiers. Ensuite, on revient à la natation avec l'Américaine Mallory Wegman, qui a été championne paralympique donc, en 2012 et en 2020, et qui est 10 fois championne du monde. Qui partage aussi que, aussi dans les journées difficiles, elle peut s'appuyer sur Dieu. Alors, je me suis trompé parce que Davin Brown, c'est pas en paranatation, comme vous le voyez. C'est en para-athlétisme. Donc, voilà, il a été champion paralympique sur le 100 mètres non-voyant et champion du monde. Voilà, et notamment quand il évoque que Jésus marche à ses côtés et qu'il guide. Parce que là, j'ai coupé parce qu'on aurait pu mettre aussi celui, le guide qui court avec lui. Parce qu'effectivement, ils sont très importants parce que ces champions paralympiques courent très vite. Et souvent, dans certains pays, ils ont du mal à trouver des athlètes valides qui courent aussi vite qu'eux. Et donc, c'est des fois très difficile pour certains athlètes qui pourraient prétendre aux compétitions, mais qui n'ont pas les guides qui soient aussi rapides. Parce qu'en fait, souvent, il faut qu'ils soient plus rapides pour pouvoir. Alors, généralement, il faut que ils laissent passer l'athlète en premier, mais il faut malgré tout courir presque un peu plus vite. On évoquait tout à l'heure triathlon, nous avons Grace Norman, qui a été championne paralympique en 2016, voilà, qui parle un petit peu comment Dieu est présent au cœur de ses entraînements, au cœur de ses compétitions et cette force qu'il lui donne. On part en Irlande du Nord avec Jason Smith, qui a été champion paralympique là aussi sur 100 et 200 mètres en athlétisme. Lui, il est malvoyant. Voilà, et donc il partage aussi l'importance de l'Évangile et du Christ pour lui. On a Daniel Dias, donc en natation au Brésil, lui qui a amputé des 2 bras et qui a été 10 fois champion paralympique sur différentes distances, 50 mètres, 100 et 200 mètres, et 11 fois champion du monde. Et voilà, il porte ce témoignage qui est toujours souriant et en disant, ben voilà, c'est pas parce qu'il manque un bras ou une jambe que voilà, on peut pas vivre et être heureux. Un très très beau témoignage. On va passer à l'Afrique du Sud, toujours en athlétisme. On a beaucoup d'athlètes en athlétisme et en natation. J'ai pas beaucoup trouvé de champions paralympiques dans d'autres disciplines qui soient chrétiens, ou alors ils n'ont pas fait forcément les témoignages. Donc il y a Diane, lui aussi est en non-voyant, qui a été champion paralympique et j'ai fait une petite erreur parce que je pense qu'il va être vice-champion du monde. Non, celui-ci, il était champion paralympique et 2 fois vice-champion paralympique. Voilà, qui témoignait aussi que là aussi, c'est pas forcément évident quand on a un handicap de se retrouver aussi avec d'autres athlètes ayant un handicap. Mais là, il partage que ça a été un moment fort de rejoindre d'autres athlètes comme lui. Alors, une des très grandes championnes de la natation, Jessica Long, qui a été 16 fois championne paralympique et qui a 50 médailles aux championnats du monde, c'est pour ça que je n'ai pas détaillé. Voilà, et qui voilà, n'a pas peur de témoigner voilà, que le Christ est important pour elle et que voilà, qu'il l'aide et qu'elle le remercie pour le talent qu'il lui a donné. Donc voilà un petit peu quelques champions paralympiques que j'ai pu noter. J'en ai rajouté quelques-uns. J'ai dit on va mettre 12 apôtres. Et puis voilà. Donc il y aura aussi à découvrir les nouveaux champions qui vont arriver en 2024 et puis peut-être certains qu'on a vus et qui vont poursuivre pour 2024. Donc après les champions, on va aussi évoquer handisport et église. Alors comme on l'a évoqué hier, l'église et le handisport, ce n'est pas nouveau. En effet, entre 1905 et 1908, il y avait des compétitions sportives qui étaient organisées au Vatican et qui incluaient des personnes atteintes de handicap, qui ont ainsi marqué un peu les prémices du handisport. Ces championnats internationaux organisés au Vatican étaient en présence du pape Pie X. Voilà. Et donc, l'enjeu de ces compétitions était avant tout de créer une dynamique d'inclusion pour ces personnes, souvent à l'époque acculées au chômage, à la misère, et notamment de nombreux cas d'enfants qui étaient abandonnés parce que handicapés. Et on a aussi quelques passages. Alors, je remercie le pape Pie X qui a lui dire tel ou tel discours qui évoque notamment les athlètes ayant un handicap. Alors, près de 100 ans après ces exploits, le club sportif du Vatican, l'Atlética Vaticana, a lancé dès ses débuts une section paralympique avec le soutien du pape François. Et donc, au-delà du seul aspect de la performance sportive, le Vatican demeure aussi un lieu prometteur de l'inclusion et d'un espace de communauté de soutien pour les jeunes avec handicap, qui s'y trouvent une occasion d'y faire fructifier leurs talents. Et on a évoqué notamment le sommet pour la présentation de la déclaration du sport, le sport pour tous, pardon, cohésif, oui, accessible et adapté à chaque personne, et qui notamment met en valeur voilà, tous les athlètes. Alors pour terminer ce temps, alors après, Monseigneur Marcet nous donnera quelques éléments plus pratiques par rapport à 2024 au niveau du Paralympique. J'aimerais vous montrer la petite vidéo de ce que Philippe vous avait évoqué de cette initiative qui avait été faite sur Metz avec des jeunes qui ont vécu, jeunes valides et jeunes handisports, avec la Fédération départementale handisport, avec la CE, avec la Pastorale de la réalité du tourisme.